La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Je vous en rappelle rapidement le principe. Benjamin Wagner, journaliste protestant, pose des questions sur la Torah auxquelles répond Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Il y a 2 semaines, on a découvert ensemble cet étrange anachronisme de certains chapitres du livre de l'Exode qui entoure le récit du don de la Torah sur la montagne d'Horeb et l'épisode malheureux du veau d'or. Et au bout du compte, on a l'impression finalement que se répète sans cesse la même question, le même doute. Est-ce que Dieu est vraiment au milieu du peuple ? Aujourd'hui, quel texte vous nous proposez, mon cher Guy ?
Eh bien, à dire la vérité, nous restons toujours dans le livre de l'Exode et nous creusons un texte un peu moins connu peut-être, mais qui a son importance dans le contexte prophétique qui nous intéresse. Alors notre texte se situe au chapitre 18, peu avant le don de la Torah du chapitre 20. Alors on va lire le chapitre 18, les versets 1 à 4 pour commencer. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, à savoir que le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée, ainsi que ses 2 fils, l'un se nommait Gershom, ce qui signifie « immigré », car il avait dit « Je suis un immigré dans un pays étranger », et l'autre se nommait Éliézer, ce qui signifie « Mon Dieu est un secours », car il avait dit « Le Dieu de mon père est venu à mon secours et m'a délivré de l'épée du Pharaon. » Alors nous voici devant un texte qui semble pour le moins assez étrange. Moïse donc, campe non loin de chez son beau-père. Il peut sembler alors légitime que ce dernier effectue une visite amicale en voisin, en quelque sorte. Qui plus est, il vient avec la femme de Moïse et ses 2 fils. Et c'est là qu'il convient de revenir un peu en arrière pour tenter de comprendre ce qui arrive concrètement dans cet épisode. Moïse avait quitté l'Égypte en fuyant devant la colère de Pharaon, et il vient trouver refuge dans le désert et fait la connaissance du clan de Jéthro. On retrouve ça au chapitre 2 de l'Exode, les versets 16 à 21. Donc Moïse va faire connaissance avec le clan de Jéthro, et dans des circonstances qu'on connaît, il va même trouver auprès de Jéthro une épouse en la personne de Séphora. Alors, sans trop nous étendre sur la vie de ce personnage, nous découvrons que Jéthro est un païen, en fait. Il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Et selon la tradition, il est fort considéré et a même été l'un des proches conseillers du roi d'Égypte, du Pharaon. D'après la même tradition, il sera cependant en désaccord avec le pharaon au sujet de Moïse quand ce dernier décidera de le faire mourir. Et il s'en retournera donc dans son pays. Alors notre texte semble montrer un Jéthro plutôt prompt à accueillir un étranger et même à lui donner l'une de ses filles. De là à imaginer que Jéthro cherchait désespérément un bon parti pour ses filles, bon, pourquoi pas. Mais c'est en tout cas l'une des options d'ailleurs retenues par le Midrash. Moïse a donc épousé une femme païenne, qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, et qui, d'un certain point de vue, aurait peut-être pu devenir un obstacle dans son futur ministère. Mais le texte lui-même ne condamne pas la démarche de Moïse. Moïse aura 2 fils de sa femme Séphora, le premier Gershom et le second Éliézer. Ce dernier naîtra d'ailleurs quasiment au même moment que son départ de Madian pour retourner en Égypte. Alors jusque-là, rien de bien extraordinaire, sinon un rapport de Moïse au monde non-juif assez singulier.
Alors, c'est vrai que finalement, on parle assez peu de la vie familiale de Moïse, sauf à propos de son frère et de sa sœur.
En effet, et quand Moïse revient de l'épisode du buisson ardent et de l'ordre de mission qu'il a reçu, cela se complique un peu. Et nous découvrons là une facette bien étrange de la vie du grand conducteur d'Israël. Dans Exode 4, verset 18, nous lisons ceci. « Moïse s'en alla de retour auprès de Jéthro, son beau-père, et il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Donc là, il revient du buisson ardent et il s'adresse à son beau-père. Le Seigneur dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, il les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant que tu retournes en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon, et moi je ferai en sorte qu'il s'entête. Il ne laissera pas partir le peuple. Tu diras au Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur Adonai, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, « Laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et tu refuses de le laisser partir, alors je vais tuer ton fils, ton premier-né. » Alors on peut sans doute trouver étrange que Moshé, qui s'apprête à accomplir une mission des plus extraordinaires et des plus dangereuses, s'encombre d'une épouse et d'enfants dont l'un est encore un jeune nourrisson. À moins qu'il ait peut-être le souhait de faire en sorte que de les rendre tout simplement témoins de tous les prodiges de Dieu. C'est durant le voyage de Madian en Égypte que se déroule en fait un fait étrange. Verset 24. Pendant le voyage, au campement, le Seigneur le rencontra, donc Moïse, et chercha à le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Alors il le laissa quand elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision.
Alors ça, c'est vrai que ça peut paraître vraiment très étrange.
Ah bah c'est sûr. Comment Dieu, qui appelle Moshé, donc Moïse, à une mission à haut risque en Égypte, lui fournissant même des signes miraculeux et lui intimant même le départ pour l'Égypte, peut-il en venir, dès la première halte dans une hôtellerie, à vouloir mettre à mort Moïse ? Il semble bien que le problème soit lié au fait que Moshé n'ait pas circoncis son fils Éliézer, qui était né peu avant. Et il ne l'a pas fait apparemment le moment venu. Alors c'est pourtant un commandement ordonné par l'alliance abrahamique, celle de Genèse 17, bien auparavant.
La femme de Moïse, qui donc, on l'a dit, n'est pas du peuple d'Israël, connaît visiblement ce rite de la circoncision et vient en quelque sorte de sauver la vie de Moïse. C'est là encore assez surprenant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
C'est pas si facile que ça à expliquer, mais on va essayer de dérouler les hypothèses. La tradition, en fait, propose plusieurs options pour expliquer ce manquement de Moshé à l'Alliance. La première, c'est que Moshé a craint tout simplement que la concomitance du départ pour l'Égypte et du moment de la circoncision de son fils soit tout simplement préjudiciable à la santé et même peut-être à la vie de son fils. Il aurait alors préféré retarder la circoncision plutôt que de différer le départ de Madian. Deuxième hypothèse, deuxième option, Moshé a pu, tout simplement dans le bouleversement des circonstances de sa vie, complètement oublier l'événement. Et il ne semble pas en tout cas qu'il l'ait oublié pour Gershom, son fils aîné, qu'il ait oublié en tout cas la circoncision. Et puis troisième option possible, la tradition propose que ce soit Jéthro, donc, pour une raison qui n'est pas indiquée, qui est demandé tout simplement à ce que ce fils ne soit pas circoncis. Bon, en fait, il est difficile, si j'ose dire, de trancher et de déterminer les raisons de cet oubli. Je pencherai pour une option supplémentaire. En fait, la question de la circoncision, ou plutôt de l'incirconcision, se retrouve dans la bouche même de Moshé. Moshé est appelé à être un homme marqué par la puissance de la parole. Or, curieusement, Moshé est affublé d'un handicap qui touche, semble-t-il, au langage. Et à deux reprises, Moshé oppose à Dieu ce handicap. La première occasion se situe dès son appel, devant le buisson ardent. En Exode 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. » L'expression à partir de l'hébreu est d'ailleurs assez bien traduite par « bouche et langue pesantes », généralement interprété comme un problème orthophonique, peut-être un bégaiement de la part de Moshé. Et si Dieu conteste la pertinence de l'argument de Moshé, sa réponse demeure l'envoi d'Aaron qui servira en quelque sorte de porte-parole pour Moshé. Le second passage est un peu plus loin, alors que Moshé vient de subir un double échec face à Pharaon et aux anciens d'Israël. En Exode 6, verset 12, nous lisons « Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles ?» C'est ce qu'on retrouve souvent dans nos traductions. L'expression en hébreu « Aral Shefataim » est ici improprement traduite par « lèvres malhabiles ». En fait, littéralement, il s'agit de lèvres incirconcises. La même expression, d'ailleurs, est reprise au verset 30 du même chapitre et dans le même contexte. C'est Moshe qui qualifie d'ailleurs ses lèvres de cette façon pour justifier qu'il ne peut être le porteur de la parole divine. Que peuvent signifier dans ces versets ces détails pour le moins surprenants ? Dieu ne pouvait-il pas choisir un homme qui avait tout simplement des qualités oratoires plus avérées ? Pour tenter de donner un début de réponse à ce problème, je pense qu'il nous faut avant tout situer les personnages dans la perspective prophétique et messianique.
C'est-à-dire ?
Nous avons déjà indiqué que dans de précédentes émissions que Moshe est en quelque sorte l'archétype du Messie à venir, un intermédiaire qui se place entre Dieu et les hommes. Moshe est appelé à devenir le porte-parole de Dieu, comme un dieu finalement, devant les hommes, et là en l'occurrence devant les Égyptiens. Il y a en quelque sorte un parallèle entre les deux peuples qui s'opposent. Le Pharaon est d'une certaine façon aussi un dieu sur la terre, et les Égyptiens sont son peuple qui, en quelque sorte, adore le Pharaon comme le représentant incarné de toute leur divinité. La réalité est encore un peu plus sombre quand on voit l'activité démoniaque des magiciens du Pharaon, capables de reproduire des miracles, du moins jusqu'à un certain point. Moïse est appelé à devenir celui qui porte la parole divine, de même en même temps que celui qui conduit son action. La confrontation des deux hommes, représentant chacun en quelque sorte son Dieu, est un modèle du genre et illustre finalement l'opposition frontale entre Dieu et le diable.
D'accord, c'est pourquoi donc ce récit illustre la réalité spirituelle du combat du Messie Yeshua contre l'adversaire par excellence, donc le diable.
Tout à fait. Ce récit relatant la problématique de Moshe avec la circoncision est donc vraiment important. Ce n'est pas juste un épisode anecdotique qui soulignerait un oubli du grand homme de Dieu que fut Moshe. Non, il y a forcément plus ici. Et Séphora, qui n'est pas juive, elle comprend pourtant quasiment immédiatement où se situe le problème. L'avait-elle pressenti ? La circoncision du garçon était-elle déjà un sujet dont ils avaient discuté auparavant ? On ne le sait pas. Dieu avait-il réellement l'intention de faire mourir Moshe tandis qu'il lui demandait d'accomplir une mission de salut pour le peuple d'Israël ? Difficile à dire. En tout cas, à toutes ces questions, nous tenterons de répondre la prochaine fois.
Oui, puisque notre émission touche déjà à sa fin, et comme vous venez de le dire, Guy, on va poursuivre dans 15 jours avec un autre texte de la Torah, et on suivra cette histoire passionnante. Au revoir, Guy.
Au revoir.
Merci, Guy, et merci, Benjamin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que les thèmes développés et les questions posées dans cette émission sont disponibles sur le site internet www.lebergerdisrael.org. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.